Alors, cette idée du mouvement, pour qu'elle ne soit pas que dans le scénario de la guerre, dans ses impasses, dans son côté ludique, dans réécrire l'histoire et dans le sentimentalisme, et dans le sentimental, pardon, pourquoi je le dis, dans le sentimental, c'est aussi la question du gag au cinéma. C'est-à-dire que plusieurs fois dans le film, et ça c'est un des principes de l'histoire du cinéma et du cinéma burlesque, c'est une des leçons de cinéma qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que la caméra va nous montrer quelque chose pour que le spectateur ou la spectatrice imagine ce qu'il va voir avant même que le personnage en ait une idée. Donc il y a plusieurs fois où l'image qu'on voit, elle n'est pas que pour l'action du personnage, mais elle est pour nous ce qu'on va pouvoir imaginer du futur de l'action. Et là, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus intéressant avec l'importance de regarder des films du cinéma muet. C'est comme on n'a pas de dialogue, c'est à nous de prévoir l'action qui va avoir lieu. Et tous les films d'action aujourd'hui, qui sont en général des films où il y a moins de dialogue, utilisent la même technique, c'est-à-dire cette idée que c'est l'action qui va mener le jeu plutôt que la parole, c'est le même principe dans le cinéma muet, et qu'on va jouer avec l'intelligence des spectateurs dans le film d'action pour prévoir justement quelle va être cette action. L'exemple lambda, c'est quand il court, comment va-t-il faire pour rejoindre la locomotive, mais ça peut être aussi de prévoir quelque chose que lui n'a pas vu, et à gauche, vous avez un exemple où il passe à côté des lignes ennemies sans les voir. Donc on a ce moment où c'est le spectateur, là l'humour c'est parce que le spectateur voit des choses que le personnage ne voit pas et qui est encore plus angoissant pour le coup ou valeureux selon où on se positionne par rapport au personnage. Alors il y a une autre chose qui est très célèbre dans la question de la comédie du burlesque et principalement chez Buster Keaton et Chaplin qui est la question de la chute. Alors il y a deux principes. Après le film, de leur faire repérer toutes les fois où ils tombent, parce que vous allez voir que, enfin, si vous vous rappelez le film, il y a quasi, c'est un tiers du film, un tiers de course-poursuite et un tiers de chute de Buster Keaton, en prenant vraiment les risques de la chute, parce que il peut tomber de sa hauteur par terre, on va le voir plusieurs fois, mais c'est aussi tomber de différents lieux, donc prendre des risques aussi dans les chutes, donc ça soit des chutes de plus en plus spectaculaires. Et par exemple, sur Internet, ils le savent très bien parce que des fois ils en regardent, c'est il y a des gens qui vont, alors soit c'est des chutes, alors c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est des chutes volontaires ou pas, qui sont mis en scène devant des petits écrans sur des téléphones pour être montrés sur Internet. Et là, c'est le même principe pour le réalisateur Buster Keaton, c'est-à-dire qu'il va mettre en scène ces chutes et qu'il va varier les histoires de ces chutes. Mais il y a quelque chose avec lequel le burlesque va travailler et qui n'est pas juste dans le risque pris par le corps et dans la performance de l'acteur, qui sont déjà des choses qui font une grande lignée dans l'histoire du cinéma, c'est l'idée du temps. C'est-à-dire que Buster Keaton, dans ses chutes, il va réfléchir sur « tombera, tombera pas ». Et là, on est vraiment dans cette idée de ce que je vous disais avant, c'est-à-dire du gag qui permet de prévoir. Puisqu'on sait qu'il va tomber, c'est un des enjeux drôles du film. Puisqu'on sait qu'il y a plein de manières de tomber, il y a des moments où il va tomber, puis il y a des moments où il tombera pas. Parce que l'envers de la chute, c'est l'équilibre. Et du coup, il y a énormément de manières, il y a énormément de jeux avec le spectateur, où le spectateur va se dire, ah oui, il va tomber à ce moment-là. Non, il va tomber avec, il va tomber à cause de cet escalier. Par exemple, là, vous prenez une salle de classe, moi je vous prends parce que vous êtes face à moi, qu'est-ce qui pourrait tomber et en plus, dès qu'on est dans le drame, le jeu de public adore, il y a une lampe qui pourrait tomber et nous griller. Il y a un siège qui pourrait tomber. Quelqu'un pourrait courir en partant et tomber des escaliers. On pourrait courir là devant vous et tomber, toutes les manières. Et donc ça, c'est le jeu aussi avec ce principe de la chute. Alors, deux choses que je voudrais souligner devant vous. C'est le principe du gag de répétition. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est tombé ou que quelque chose est tombé, par exemple, un arbre qui subit la foudre, un arbre foudroyé, on se dit, bon, ok, il peut y en avoir d'autres, on va voir quel arbre est en train de faire. Mais il y a aussi un jeu, puisqu'on a dit que c'était un double scénario, un scénario amoureux et un scénario de comédie, de guerre. Vous avez vu qu'il tombe beaucoup à cause d'elle. Alors il tombe à cause de son poids, il tombe parce qu'elle l'a embrassé de surprise. Et ça, c'est très beau de leur dire, vous voyez, là, il n'y a pas de dialogue, c'est que visuel, mais est-ce que ça peut nous faire aussi penser à des phrases? Parce qu'en fait, la phrase, c'est-à-dire que des mots ne sont pas dits, mais que notre manière de figurer les choses, ça peut aider les réalisateurs à avoir aussi des idées. Et on a toujours une qui dit, ah ben oui, on dit tomber amoureux. Et le lien avec le personnage féminin se fait aussi beaucoup dans la chute, puisque elle a toute une partie, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un personnage courageux aussi. Le personnage féminin est assez courageuse, elle va se faire kidnapper par les nordistes. Mais il y a cette idée de la chute qui est aussi une chute physique de l'amour, être surpris par le sentiment entre les deux personnages. Prévoir, là c'est un cas typique de prévoir. Nous on a vu l'ours avant, lui il l'a pas vu, et du coup on se dit à quel moment il va tomber ou pas, ou se faire mettre à terre par l'ours. Donc voilà, c'est des exemples hein, parmi d'autres dans le film, de cette idée de une fois qu'il y a eu soit une chute physique, soit quelque chose qui est de l'ordre d'un empêchement dans l'action, dans le déroulement, dans l'avancée, dans la marche, bah, il peut se reproduire, mais il peut aussi se faire un peu en décalé. Donc c'est cette idée, j'ai insisté devant vous, de prévoir. Est-ce qu'on va pré-penser, est-ce qu'on va voir avant l'action qui arrive? Mais c'est aussi l'idée du cache. C'est-à-dire que le cinéma muet, c'est une leçon qu'il va transmettre au cinéma parlant, va aussi s'amuser à montrer des choses à l'intérieur de l'image et à les dérober. Et là, c'est plus que c'est hors du cadre, c'est-à-dire c'est plus qu'on est en dehors du rectangulaire, en dehors du rectangle de l'écran, pardon. Donc on n'est pas hors champ, comme on dit au cinéma, mais que c'est quelque chose qui peut apparaître au milieu de l'écran ou disparaître. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait son visage en dessous de la table. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'était pas visible, mais bon, il est visible, donc il a le risque potentiel qu'il se fasse arrêter par les nordistes, et hop, il est recaché. Pareil avec l'ours, il y a un moment où il est présent à l'image et il disparaît. Et ça, au cinéma, c'est intéressant parce que ça s'appelle un cache dans le cadre, et c'est aussi très chouette à essayer de fabriquer avec des téléphones cette idée de créer quelque chose qui va apparaître et disparaître. Par tout à l'heure, on avait quelque chose qui était une nappe sur la table, et là on a la lumière de l'orage qui va montrer ou cacher quelque chose. Donc c'est pas obligatoirement en dehors du hors-champ, ça peut être un cache dans le cadre à l'image. Ce jeu du déséquilibre entre l'équilibre et les équilibres, est-ce que après, entre les spectateurs, on rit de voir quelqu'un chuter et on pense pas au mal à la chute, il y a le plaisir de le voir tomber, hein, c'est un grand jeu avec l'humour, et peu importe le type de spectateur, il y a des gens qui ne rient pas parce qu'ils se mettent à la place du personnage, et il y a des gens justement qui rient de la chute, c'est comme la question des coups dans le burlesque.